France Culture.
Talmudique. Quelqu'un avait dû calomnier Joseph K, car sans qu'il n'eût rien fait de mal, il fut arrêté un matin. Ainsi commence le célèbre roman de Kafka intitulé Le Procès, qui raconte les péripéties et les déambulations d'un accusé sans raison apparente qui, après avoir passé des mois dans les couloirs des tribunaux à chercher, à comprendre et à se disculper, finit par être condamné et mis à mort. Dans ce roman se trouve aussi la célèbre parabole intitulée en français « Devant la loi » ou « Devant les portes de la loi ». C'est l'histoire d'un homme qui, toute sa vie, veut pénétrer dans la loi mais n'y parvient pas. Parabole complexe qui a le mérite de poser la question, comme toute l'œuvre de Kafka, de la place de la loi dans la vie des hommes, et en particulier par gros temps et en temps d'exception. Primo Levi, le traducteur du procès en italien, vit dans les hallucinations et dans les atmosphères de cauchemar de Kafka un épouvantable pouvoir de prémonition, selon l'expression de George Steiner, prémonition de ce que l'Europe autour de lui préparait contre les Juifs. Et très probablement, Primo Levi aurait partagé la remarquable observation de Rosemary Ferenczi, selon laquelle Kafka ne voulait pas être le prophète des futures catastrophes, mais s'efforcer de déchiffrer les aspects du malaise de son temps, et si en certains cas ses descriptions paraissaient prophétiques, c'est parce que les époques ultérieures furent la suite logique de la sienne. Cette question de la loi et de son rapport au nazisme a souvent été soulignée, mais les recherches récentes de l'historienne Johan Haller montrent comment, au sein même des institutions françaises, l'application de la loi a joué un rôle particulier et absolument majeur. Son livre, très justement intitulé « Au nom de la loi », sous-titré « La persécution quotidienne des Juifs à Paris sous l'occupation », vient de paraître aux éditions Gallimard et a reçu le prix du livre d'histoire de la Fondation Heilbronn. Johan Haller, bonjour.
Bonjour.
Johan Haller, vous êtes historienne, docteur en sciences politiques et psychologue clinicienne et chercheuse indépendante. Comment vos recherches et vos travaux vous ont amené à ces nouvelles découvertes?
Je vous remercie pour cette question. Il n'y a pas forcément de continuité directe entre ces deux sujets. Il y a mon parcours personnel, qui est un parcours interdisciplinaire que j'ai construit au fil de mes envies, au fil de mes motivations et mes intérêts de recherche. C'est vrai que je suis passée de l'étude de la résistance juive et de la redéfinition de l'identité juive en France après la Seconde Guerre mondiale à cette étude beaucoup plus particulière de la persécution. Elle s'est incarnée pour moi dans une recherche très précise que j'ai commencé à dérouler à partir de l'année 2017 sur les Juifs qui sont morts dans le camp d'internement de Drancy, dont deux monographies évoquaient le sort en disant que leur corps avait été jeté dans une fosse commune, introuvable et qu'ils étaient non identifiables. Et c'est vrai que ce mystère m'a intéressée, d'autant plus que j'avais travaillé pendant plusieurs années aux côtés du père Desbois au sein de l'association Yahad Inounoum, et j'avais effectué beaucoup de recherches en Europe de l'Est, dans des voyages de recherche sur les traces des fosses communes des Juifs fusillés en Europe de l'Est par les Einsatzgruppen. Et je me suis dit, effectivement, s'il y a une fosse commune à aller chercher qui se trouverait à Drancy, je vais la trouver. Bon, cette fosse commune n'existe pas, mais en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte d'un phénomène qui est à l'origine de ce livre, à savoir, je me suis rendu compte que j'avais effectué des milliers de kilomètres pour aller sur le terrain d'Europe de l'Est, mais que finalement, je n'étais jamais allée sur les lieux de ce camp d'internement et de concentration qui se trouve si proche de moi, Drancy, et qu'il y avait eu un phénomène de déréalisation de ce lieu en particulier et de plusieurs autres lieux de la persécution des Juifs à Paris pendant l'occupation.
Ce qui est intéressant dans ces lieux, c'est que ce sont des lieux qui, a priori, n'ont pas un lien particulier avec les Juifs et avec la déportation, et pourtant...
Exactement, puisque la vie quotidienne a continué sous l'occupation, et notamment pour les Juifs. Cette vie quotidienne, elle s'incarne dans des lieux, dans des services, dans des guichets de l'administration, qui ont fait face à des situations inédites, que finalement peu d'historiens avaient encore élucidées, à savoir cette rencontre entre un agent administratif et un public d'usagers composé désormais de Juifs étiquetés comme tels, qui sont soumis à des règles particulières. Ces règles posent des problèmes nouveaux aux agents administratifs et en face d'eux, ils ont un public qui est déboussolé et qui ne sait plus exactement ce qu'il a le droit de demander, ce qu'il a le droit de faire. Et donc, c'est cette rencontre au quotidien entre finalement la banalité d'une routine administrative et l'exceptionnalité d'un statut, d'une catégorie juridique qui entre dans l'administration française, que j'ai voulu observer.
Alors pour bien comprendre votre propos, je pense qu'il faut rappeler quel est le statut des Juifs à cette époque. Et comment la loi, à la fois la loi des Allemands, mais aussi la loi du gouvernement de Vichy, a transformé l'univers juridique de ces Juifs.
Bien sûr. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de penser la persécution des Juifs à l'aune de la rafle, et notamment de la rafle du Veldiv, qui a d'ailleurs éclipsé 18 rafles qui ont eu lieu à Paris sous l'occupation. Mais elle a surtout éclipsé, à mon sens, les formes quotidiennes prises par la persécution des Juifs. Et on a tendance à oublier que les premières mesures qui ont été prises contre les Juifs, ce sont des mesures qui ont visé à distinguer, à définir qui était juif, puis à les déposséder de leurs biens dès l'automne 40. On a vu ensuite arriver un empilement de normes, à la fois des lois françaises, mais évidemment des ordonnances anti-juives allemandes. Au total, il y aura 5 grandes lois anti-juives du côté français et 9 ordonnances allemandes anti-juives qui vont se cumuler, rivaliser les unes entre elles. Et c'est vrai qu'on connaissait peu ce mode d'arrestation, ce mode de persécution au quotidien qui, effectivement, pouvait conduire à l'arrestation d'un juif pour n'avoir pas sur lui une carte d'identité avec le tampon obligatoire juif, ou bien ne pas s'être fait recenser comme juif.
Évidemment, ne pas porter l'étoile jaune, par exemple.
Alors, j'y viens, en fait. Selon l'infraction commise, c'était un sort très différent qui attendait les Juifs. Au quotidien, ils pouvaient être arrêtés pour une infraction à une loi française et être conduits vers la voie judiciaire française, et donc présentés à un juge et ensuite incarcérés et jugés. Ou bien, ce qu'on sait encore moins, les policiers français se chargeaient à Paris de réprimer les infractions aux ordonnances allemandes anti-juives, comme le port de l'étoile. Et dans ce cas-là, le sort des Juifs était encore plus expéditif, puisqu'ils étaient conduits par la police française directement vers le camp d'internement, et Drancy en particulier, et donc prêts à être déportés.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé de continuité et de quotidienneté dans ce cadre de toutes les lois anti-juives dont vous avez parlé. On est surpris, en vous lisant, de découvrir justement le fonctionnement sans interruption, par exemple, du culte dans les synagogues et les rites funéraires. On enterrait les Juifs à Paris, je dirais, normalement. Cela semble très étonnant de la part des Allemands et du gouvernement de Vichy d'avoir laissé ces lieux de culte et ces rites funéraires se dérouler normalement, Joan Haller.
Effectivement, les synagogues n'ont jamais été fermées durant l'occupation à Paris. L'exercice du culte n'a jamais été interdit ni par les autorités allemandes ni par les autorités françaises. Ce qui a conduit effectivement à la poursuite des inhumations religieuses, et notamment les inhumations consistoriales. J'ai travaillé sur cet aspect. J'ai comptabilisé environ 2300 inhumations consistoriales. Il y en a eu bien d'autres, puisque des inhumations pouvaient se dérouler hors de l'égide du consistoire. Mais c'est vrai qu'on est surpris par cette normalité de la vie juive. Normalité relative, toutefois, puisqu'il faut imaginer que pour les Juifs étrangers qui étaient visés par des rafles successives, le fait de se rendre à un enterrement était périlleux, puisque les inspecteurs de police guettaient ce genre d'événement. Ils se postaient à la sortie des cimetières pour effectuer des contrôles d'identité. Et donc, il fallait s'y rendre de façon prudente. Je renvoie ici au livre de Robert Badinter sur sa grand-mère, Idis, où il parle de l'enterrement de sa grand-mère à Bagneux, en petit comité, en catimini, en novembre 42, puisque tout le monde craignait l'arrestation.
Et est-ce que les inspecteurs de police se mettaient aussi à la sortie des synagogues pour vérifier les identités?
Effectivement, il y a eu des rafles faites aux abords des synagogues et aussi des sortes d'opérations de police allemande. Oui, bien sûr, c'était des lieux qui avaient un double aspect. Donc des lieux de regroupement et donc des lieux dangereux pour les Juifs, mais aussi des lieux de sociabilité juive qui ont été assez peu étudiés à partir du moment où les Juifs ne peuvent plus entrer dans les établissements publics, c'est une ordonnance allemande de juillet 42, les synagogues vont servir de lieu d'information. Et là, je rebondis sur votre citation de Kafka du début. C'est important de considérer l'expérience subjective des Juifs à cette époque, qui était totalement désorienté et confus face à l'accumulation d'interdictions et de lois et de normes qui les visaient. Ils ne les maîtrisaient pas et ils cherchaient à tâtons une façon de conduire leur vie qui leur évite l'arrestation. Ces lieux, il existait des restaurants juifs réservés aux Juifs, ce qu'on appelle les restaurants de ghetto, eh bien, les synagogues aussi étaient des lieux où l'information circulait.
Alors c'est intéressant, vous venez de citer des lois qui sont tellement nombreuses qu'on ne sait plus exactement quoi faire. Et il y a une lettre que vous citez dans un de vos chapitres qui est à la fois questionnant, mais en même temps presque drôle, où une personne, je lis le texte, c'est dans le chapitre « Bureau du service juridique de l'Union générale des Israélites de France, 29 rue de la Bienfaisance, rue bien nommée, si on peut dire, Paris, le 12 juillet 1943. Monsieur, veuillez avoir la gentillesse de me renseigner sur ce sujet. Le dimanche, nous allons en promenade et nous allons à Nogent-sur-Marne, Seine, parfois à Joinville, et nous déjeunons sur l'herbe près de la Marne, au bord de l'eau. Je voudrais savoir si nous avons le droit de déjeuner sur l'herbe. Naturellement, à 8h, nous sommes rentrés. Je voudrais avoir une réponse le plus tôt possible. » Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la réponse de l'avocat à cette question. « Monsieur, nous nous empressons de répondre à votre lettre du 12 courant. À notre avis, vous avez le droit de vous promener à la campagne, à condition de ne pas sortir du département de la Seine. Vous pouvez également déjeuner sur l'herbe, près de la Marne, au bord de l'eau, à condition, bien entendu, que vous n'entriez pas dans un établissement public et que vous ne fréquentiez ni baignade, ni parc, ni autre endroit interdit par la réglementation que vous semblez d'ailleurs connaître. » C'est étonnant comme lettre.
Ce n'est pas forcément étonnant quand on plonge dans les arcanes de la persécution, puisque la vie des Juifs était limitée, saturée d'interdits, et leur vie était épiée, traquée par des inspecteurs de police qui cherchaient le moindre faux pas pour pouvoir les arrêter. Et c'est vrai que la combinaison des lois françaises et des ordonnances allemandes que les Français avaient choisi de faire respecter à la place des Allemands, eh bien, leur donner toute une gamme de prétextes pour les arrêter. Et les Juifs s'adressaient à ce service très peu connu, mais essentiel de l'Union générale des Israélites de France, le bureau du service juridique, qui s'était chargé, en fait, de fournir cette information, une information valide, vérifiée, et de transmettre au maximum de Juifs, avec plus ou moins de succès. Dans le cas de ce correspondant, Michon Lévy, malheureusement, il sortait de Drancy, où il avait été interné assez longtemps. Il avait pu sortir du fait de sa nationalité turque, et quelques temps plus tard, eh bien, je le dis dans la fin du chapitre, il sera arrêté pour une toute autre raison, ce qui vous montre aussi le cycle des moments répressifs qui ont visé les Juifs. Il n'y avait pas une seule trajectoire de persécution, mais moi je préfère parler d'emboîtement, de moments répressifs différents, de natures différentes. On pouvait tomber pour une infraction, sortir par une voie légale de ce cycle de persécution et replonger dans la persécution par une rafle. Donc on a des boucles de persécution qui, à mon sens, n'étaient pas bien connues et qui nous permettent de revoir notre façon d'envisager la persécution des Juifs à Paris.
Vous avez essentiellement travailler sur des archives. Que découvrez-vous, Johanna Lehr?
Alors, c'est vrai que je me suis intéressée à des archives qui n'avaient pas été exploitées ou très peu. Il faut tout de suite dire que ces archives ne viennent pas d'être mises à disposition du public. Ce sont des archives qui sont là, qui sont consultables sans dérogation. Simplement, il n'y a pas eu l'idée d'aller chercher la présence des Juifs dans ces archives. Donc évidemment, oui, j'ai travaillé beaucoup dans les archives des cimetières, les archives des hôpitaux, les archives des mairies, des bureaux de bienfaisance, les archives des prisons. Alors, prenons l'exemple des prisons. C'est vrai que, en tournant les pages des registres, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de gens qui se déclaraient Juifs à l'entrée ou qui étaient étiquetés comme tels par l'administration. Et ça, à une date où les Juifs étaient enfermés au camp de Drancy, où les trains de déportation envoyaient les Juifs vers l'Est, vers les camps de la mort. Et donc, je ne comprenais pas la raison de cette présence. Et c'est vrai qu'à travers ces archives, eh bien, j'ai pu accéder. C'était une fenêtre vers une persécution quotidienne, vers aussi une vie quotidienne qui continuait. On pouvait voir que les Juifs tombaient pour des histoires de marché noir, pour des larcins commis, puisqu'on les empêchait de travailler et de gagner leur vie. Beaucoup sont tombés dans ce genre d'affaires. Évidemment, le non-recensement comme juif, c'est une cause majeure d'envoi en prison. Peu de gens savent que ce statut des Juifs disposait à partir du 2 juin 1941 d'un volet pénal, qui qui envoyait très concrètement les Juifs en prison pour ne pas s'être déclarés Juifs eux-mêmes, leurs femmes, leurs enfants, mais aussi le bout de tissu qu'ils gardaient chez eux. Donc on a toute cette population primo-délinquante, hein, ce ne sont absolument pas des délinquants endurcis, qui arrivent en prison. Et à travers les archives carcérales et les archives judiciaires, je découvrais un monde qui était totalement fermé jusqu'alors, le monde de la survie quotidienne.
Dans cette survie quotidienne, vous parcourez les 20 arrondissements de Paris. On a l'impression que vous voulez nous faire revisiter ou tourner dans l'escargot des arrondissements. Pourquoi ce choix, je dirais, géographique, ce parcours ? Il y a même une carte que vous mettez dans votre livre.
Je pense que c'est important de réinscrire cette persécution dans des lieux, dans des murs desquels elle a été expurgée. Je prendrai l'expérience que je l'ai mentionnée au départ. Le camp de Drancy, les murs sont toujours là, le lieu est là. Si vous faites l'expérience et vous demandez à des gens s'ils ont été voir ce lieu, s'ils savent qu'il y a eu un camp de concentration près de Paris, les gens seront étonnés. Non, ils n'y sont pas allés, ils seraient même choqués de cette appellation. Et pourtant, comment s'est opéré ce phénomène de déréalisation des lieux? Et c'est vrai que la fréquentation quotidienne des archives depuis près de 10 ans me donne une familiarité avec ces lieux. Il y a des lieux qui sont incontournables dans cette persécution, notamment je pense au dépôt de la préfecture de police qui a vu passer dans ses murs près de 17 000 juifs arrêtés, traités comme des délinquants, invisibilisés par cette délinquance, par ce traitement quotidien de la répression des petits larcins par la police parisienne, qui a été emmené là, ensuite envoyé vers la voie judiciaire ou bien envoyé vers le camp d'internement de Drancy. Mais ce lieu ne dispose d'aucune mémoire de cette persécution des Juifs. Autre lieu emblématique.
Il se trouve actuellement à la conciergerie, sur les quais.
C'est sous le palais de justice. Ce sont ces caves assez moyenâgeuses. Maintenant, c'est vrai que c'est un lieu qui n'est plus usité. Il y a des projets pour en faire peut-être, un musée ou des choses culturelles. Mais en tout cas, il n'est plus utilisé. Il est décrit dans certains témoignages comme étant un lieu lugubre, sordide, où les gens étaient jetés sur des paillasses. Du côté des femmes, c'était des bonnes sœurs qui s'occupaient d'elles. Donc les femmes dormaient à même le sol, dans une chapelle, devant une grande croix. Enfin, ce sont des images assez impressionnantes.
Et il n'y a aucune plaque qui mentionne que 17 000 juifs sont passés dans ce dépôt de la préfecture de police.
Il faut dire qu'avant mon travail, on disposait des archives, mais elles n'étaient pas élucidées. Parce que ce sont des archives très compliquées à comprendre, puisqu'il y a plusieurs catégories de prisonniers qui passent par le dépôt. C'est assez compliqué de décrypter les mentions des agents qui notaient. C'est une tâche à laquelle je me suis employée. Et c'est vrai que maintenant, pour moi, je le dis dans le livre, pour moi, c'est un peu la pierre de Rosette, ces registres. Parce que je les comprends, je teste des hypothèses grâce à ces registres, et je retrouve la trace de tous ceux qui n'ont pas été arrêtés lors de rafles. Ils sont tous passés par le dépôt. Et si on regarde uniquement Paris, ça représente un nombre de gens significatif. On sait que un tiers des Juifs déportés de France arrêtés à Paris sont passés par le dépôt, n'ont pas été arrêtés lors d'une rafle, mais lors d'une arrestation individuelle. Donc c'est à peu près plus de 10 000 personnes. Donc évidemment, ce lieu, l'invisibilisation de ce lieu, à mon sens, est problématique. Mais il y a un autre lieu qui me tient à cœur, qui lui est totalement oublié. C'est le numéro 8 de la rue Grefful, qui était le siège de la police aux questions juives. Et là, on touche à un organe de l'État qui a incarné la dérive de l'État français, de la police française. C'était le lieu où les Juifs, une fois arrêtés dans la rue individuellement, étaient ramenés, parfois tabassés, pour avouer qui leur avait procuré une fausse carte d'identité, pour les forcer à aller se déclarer juifs ensuite à la préfecture. Et c'est vraiment un lieu... Pour la même infraction, vous voyez, à la préfecture de police, dans les bureaux du service des affaires juives, on ne tapait pas. Là, on frappait. Donc ce lieu, à mon sens, il mériterait une plaque, un souvenir qui manque, aujourd'hui qui est absent.
Ça mériterait une plaque commémorative. On a l'impression que vous faites un travail de tikkun, de réparation, on dit en hébreu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble aussi faire partie de votre travail, cette réparation ?
Oui, je pense que la fréquentation quotidienne, je l'ai dit, me donne une image d'un Paris totalement différent, mais me donne une certaine responsabilité aussi, je pense. Parce que ces archives, elles sont émaillées de lieux, évidemment, mais de noms de gens. Et ces gens sont passés à la trappe de l'histoire. Je reçois énormément de demandes aujourd'hui de familles qui cherchent des explications plus de 80 ans après les faits pour comprendre pourquoi telle personne de leur famille, comment elle a disparu. Elle n'a pas été prise dans une rafle, mais par où est-elle passée? Et c'est vrai qu'il arrive souvent ce genre d'interaction un peu étonnante où je reçois une demande et en 10 minutes, je peux répondre avec des documents et une explication. Et c'est troublant de penser que cette mémoire-là, cette mémoire familiale des morts de la Shoah, non pas pris dans les RAF, mais dans des arrestations individuelles, n'a pas été encore prise en charge. On n'a pas répondu à ce besoin-là. C'est un chantier immense qui est devant nous grâce à ces archives.
Monsieur le commissaire, vous avez un mandat, bien entendu.
Voilà, maître. Tâchez de lui faire comprendre que ce n'est pas une question personnelle ni du vice de ma part, c'est la loi.
Mais je ne discute pas la loi, mais elle ne me concerne pas. Je n'accepte pas d'être pris pour un autre et de payer pour un autre.
Mais cela ne dépend pas de moi, c'est la préfecture qui nous a signalé votre cas.
Mais c'est moi qui ai signalé le cas à la préfecture! Et ça n'a rien à voir avec moi!
Cela reste à prouver.
Ça m'a l'air d'une drôle d'histoire, Robert. Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre là-dessous?
Non, je te dis, c'est une formalité. La police n'a aucun doute.
Alors pourquoi est-ce qu'on te demande tous ces certificats?
Parce qu'il y a un autre Robert Klein. Et il semble qu'il est juif.
Juif? Alors c'est peut-être la branche hollandaise?
Il y a des clans en Hollande.
Allô? Oui, mademoiselle, oui. Pierre? Bonjour. Oui. Comment? Non, ça va. Bon, alors, trois des certificats sont ici à Strasbourg. Je m'en charge. Oui. Quant à mes grands-parents maternels, alors l'un est né à Marseille. Voilà, Jules Marcel Bléard. Oui, Bléard, ARD, tu notes. Et ma grand-mère à Alger. Oui, Alger. Son père était un communard déporté à Alger. D'accord. À demain. C'était mon avocat.
Oui.
Nous venons d'entendre un extrait du film Monsieur Klein avec Alain Delon dans le rôle principal, un film de Joseph Losey de 1976. Ce film culte que vous avez choisi, Johan Haller, pour illustrer notre conversation, ne peut se comprendre que dans le cadre de cet au nom de la loi et des persécutions quotidiennes des Juifs à Paris sous l'occupation que vous exposez dans votre livre. Expliquez-nous pourquoi.
Là, ce qu'on entend, effectivement, c'est la recherche d'un certificat de documents qui permettront à l'administration française d'émettre ce fameux certificat de non-appartenance à la race juive. Là, on ne se situe plus du tout dans le cadre d'une rafle, une rafle qui vise, en général à Paris, ça fonctionne grosso modo par nationalité. Là, on se trouve dans le cadre de la quotidienneté, de ce soupçon qui pèse sur les personnes du fait de leur nom de famille en général, hein, c'est comme ça que ça se passe, et qui les oblige à produire des preuves de leur non-appartenance à la race juive. Hein, évidemment, entre guillemets, ça c'est le langage de l'époque. Pour comprendre ce document et l'existence même d'un tel document administratif, il faut comprendre que la première mesure qui a été prise en France, c'est ce qu'on a demandé aux Juifs, c'est le recensement. Donc c'était une campagne de recensement obligatoire. On demandait aux personnes de venir s'auto-déclarer comme Juifs auprès des autorités. Évidemment, ça a laissé la possibilité à de nombreuses personnes de ne pas se reconnaître comme telles, de décider de ne pas le faire, ou bien de contester cette appellation. Ça ennuyait énormément, pour le dire vite, l'administration française et le commissariat aux questions juives qui disposait d'un petit service, hein, qui était le moteur de la persécution, qui s'appelle le statut des personnes. Et donc ce statut des personnes invitait toutes les personnes qu'elle jugeait récalcitrantes, eh bien, à produire des preuves de leur non-appartenance. Alors, l'autre extrait qui va dans ce thème venant de ce film, c'est effectivement la scène d'ouverture, qui est le moment de l'examen ethno-racial du professeur Montandon, Georges Montandon, où voilà, les Juifs se rendent à son cabinet pour être auscultés, tâtés comme des bêtes, parce que finalement, l'administration française avait mis en place cet examen ethno-racial pour court-circuiter les refus de se déclarer juif chez certains. C'est-à-dire que ça correspond à un moment où le poids de l'ascendance légale qui est au cœur de la définition du juif telle qu'elle a été mise en place par la loi du 2 juin 41 disparaît au profit de cette biologie raciale. Voilà. Donc c'est vrai que je trouve que ce film, il est difficile à comprendre. Pour les gens justement qui n'ont pas une connaissance de la quotidienneté de la répression, il est difficile à comprendre, mais il est d'une justesse incroyable.
Très kafkaïen d'ailleurs dans sa façon d'être mise en scène. Alors ce qui est intéressant aussi, vous venez de l'évoquer, mais je pense que c'est intéressant qu'on s'y arrête un petit peu, on a l'impression d'une inversion. D'habitude est désigné comme juif celui qui se déclare comme juif, comme vous l'avez dit. Mais là, on est désigné comme juif par le désir ou la volonté d'autrui, ce qui est une forme d'effacement du juif comme sujet, si l'on peut dire. À cela s'ajoute un renversement juridique important, c'est le renversement de la preuve. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
On assiste à cette opération de renversement de la charge de la preuve au niveau juridique, c'est-à-dire que l'administration voulait que toute personne ne pouvant montrer qu'elle n'avait aucun lien avec une ascendance juive était considérée comme juive a priori. La réalité était que toute personne ne pouvant prouver sa non-appartenance à la race juive était supposée juive. Ce qui a entraîné une confusion, un pataquès énorme auprès des services administratifs, puisque les gens, finalement, en France, ne savaient même pas s'ils étaient juifs au regard des critères de la loi. Donc, beaucoup de gens qui, a priori, n'avaient pas de raison de se sentir concernés, se sont précipités vers les bureaux, vers les guichets de l'administration pour demander ce fameux sésame, le certificat de non-appartenance, puisque, il faut le rappeler, ça, peut-être les gens n'en ont pas conscience, mais il était absolument nécessaire de posséder un certificat de non-appartenance à la race juive pour acheter un bien, pour retirer un manteau qu'on avait déposé en gage quelque part. Des actes anodins de la vie quotidienne nécessitaient ce sésame.
Les films et les romans s'attachent à des personnages et des parcours singuliers que l'on peut suivre. C'est comme le film qu'on vient d'évoquer. C'est aussi ce que vous faites dans ce livre. Je crois qu'il serait intéressant d'avoir deux parcours différents qui montrent dans les deux cas comment tout est fait au nom de la loi, mais comment l'issue de chacun de ces cas est totalement différente, voire opposée, ce qui souligne la subtilité et la complexité que l'on entend déjà dans vos propos, de l'usage de la loi, Johanna Lehr.
Oui, exactement. Donc c'est vrai que, prenons le premier cas, je vais parler d'un cas qui permet de comprendre comment l'application des règles administratives a pu conduire à la mort d'une personne, à la déportation d'une personne. Josephine Spector, un juif d'origine russe, naturalisé français, est arrêté dans la rue à Paris en avril 1944. Il a sur lui, chose tout à fait légitime, une carte d'identité dont il a lavé la mention « le tampon juif obligatoire ». Les deux inspecteurs probablement l'arrêtent au faciès, et puis le petit accent, il pressent quelque chose, il le ramène à la préfecture de police. Et là, il va être poursuivi, il va être incarcéré pour cette infraction à une loi française, donc il a de la chance dans son malheur, puisqu'il va être conduit vers la voie judiciaire française et placé en prison. Mais à cette époque-là, rapidement, une circulaire va être émise auprès du parquet demandant la libération des délinquants, des inculpés pour des faits assez mineurs. Eh bien, application de la loi, il va sortir de prison puisque la prison est surpeuplée, il faut faire de la place. Il va sortir de prison. Ce qu'il ne sait pas, c'est que, en fait, la répression pénale des Juifs s'est doublée d'une répression administrative. Et en fait, deux policiers français l'attendent à la sortie de la prison pour le ramener à la préfecture de police. Et de là, il sera envoyé au camp de Drancy et ensuite déporté par le dernier convoi en direction d'Auschwitz. Donc, il ne reviendra pas. Premier cas, on voit comment l'application purement routinière des règles l'a conduit à la mort. À l'inverse, je prends le cas d'une femme, Rosa Spielmann, qui est arrêtée avec sa famille à la rafle du Veldiv. Elle est emmenée au Veldiv. Et là-bas, elle est en proie à des hallucinations très fortes. Et elle va se mettre à frapper autour d'elle quelqu'un, un enfant, je crois. Elle est séparée immédiatement de sa famille. Les policiers l'emmènent à ce qu'on appelle l'infirmerie du dépôt, l'infirmerie psychiatrique. De là, elle est placée d'office à Sainte-Anne. Sainte-Anne, où les médecins vont prolonger son internement psychiatrique, retardant d'autant, évidemment, son internement administratif à Drancy et finalement vont lui permettre d'échapper à la déportation. Donc elle va sortir de Sainte-Anne en septembre 1944, mais elle ne retrouvera jamais sa famille qui, elle, a été déportée.
Quand on vous lit, on a l'impression que vous avez choisi une forme d'écriture presque romanesque. C'est un style qui n'est ni purement universitaire, ni autobiographique, qui n'appartient pas non plus à l'égo-histoire que nous avons rencontré récemment avec Annette Vivorca. Pourquoi ce choix d'écriture, Joanne Allaire ?
C'est vrai que j'ai écrit beaucoup de travaux universitaires, mais là, je pense que le sujet imposait une forme différente. Je dois dire que je voulais traverser cette barrière qui existe entre le public profane et le public des spécialistes, pour deux raisons. D'abord, il me semble qu'on est face à un déficit de savoir dans cette affaire. C'est très étrange, c'est assez paradoxal parce que finalement, on a l'impression qu'on sait tout de cette période-là, que tout a été dit, tout a été écrit. Et quand on plonge dans les archives et dans les faits, on se rend compte qu'en fait, on sait très peu de choses. Donc, l'importance de faire accéder le public à ce sujet. Deuxièmement, je l'ai dit, je pense que c'est important de construire une mémoire familiale de ces événements. C'est-à-dire, je pense qu'il y a énormément de demandes de famille de comprendre ce qui s'est passé. Et on a devant nous des archives qui ont été finalement peu exploitées pour cette mémoire particulière, cette mémoire privée. Je me charge de restituer souvent beaucoup aux familles ces archives-là. Et je pense que c'est un sujet qui doit être pris en charge collectivement. Il y a une réflexion à mener autour de cette restitution.
Merci Joanne Allaire pour cette conversation passionnante et ce livre précieux et innovant pour la recherche et la compréhension affinée de cette époque de l'histoire. Un livre qui permet aussi de comprendre l'histoire au plus près des archives. J'en rappelle le titre, « Au nom de la loi, la persécution quotidienne des Juifs à Paris sous l'occupation ». C'est aux éditions Gallimard dans la collection Connaissance. Plaisir de lecture garanti. Merci encore Joanne Allaire.
Merci Marc Alain.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Stéphane Touvenin, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.